Ça a commencé avec un sabotage local. Il y a des pipelines qui traversent notre communauté de Krika. Donc nous, on ouvrait ces tuyaux et on récoltait de la vraie essence, du carburant raffiné. C'est comme ça que nous avons commencé. Puis le gouvernement est devenu plus agressif dans sa lutte contre ces petits trafics. Donc nous avons décidé de partir dans les marécages.
RFI. Grand reportage.
Premier producteur de pétrole d'Afrique et pourtant, le Nigeria peine à profiter de l'envolée des prix du baril de brut qui ont explosé ces derniers mois. Plus surprenant encore, les Nigériens ont parfois du mal à trouver du carburant et ont été confrontés récemment à une sévère pénurie d'essence. Les autorités, elles, promettent de venir à bout des voleurs de pétrole qui siphonnent la production nationale et détruisent l'environnement dans le delta du Niger. Vol de pétrole dans le delta du Niger, un grand reportage de Lisa Fabien.
Hello.
Hi, good morning.
Good morning, how are you?
Yeah.
Assis sur des marches étroites entre deux maisons, les mains plongées dans un bac à lessive, Sotonié Sekibo frotte énergiquement un habit blanc immaculé.
Ça fait deux jours que je fais tremper cette chemise. Nous venons juste d'enterrer mon beau-père la semaine dernière, mercredi. Donc dimanche, il y a eu une messe. Et nous, les proches qui portons le deuil, nous devons nous habiller en blanc. Vous voyez, ça, c'est la tenue de mon fils. Sauf que je dois faire bien attention. Ces tissus-là, il n'y a pas de problème car ils sont colorés. Mais celui-ci, je dois le surveiller de près pour ne pas qu'il se salisse à nouveau.
Ce que Sotonié redoute plus que tout, c'est que de la suie noire vienne se déposer sur le blanc de cette chemise. Tous les habitants de Port Harcourt ont l'habitude de vivre avec un nuage suspendu au-dessus de leur tête et la menace constante de la pollution qui s'immisce et s'incruste partout.
Nous voyons ces dépôts noirs tous les jours. D'abord, quand tu te mouches, tu vas voir que des particules noires sont entrées dans ton nez. Ensuite, quand tu fais ta lessive, il faut faire bien attention aux vêtements blancs. Sinon, de la suie noire se dépose dessus. Cette pollution est vraiment dangereuse, notamment pour nos enfants qui toussent sans raison. Si jamais tu gardes de l'eau trop longtemps, elle va aussi se recouvrir de particules sombres. Tout ça, c'est la suie noire et ça détruit notre santé puisque nous l'ingérons tous les jours.
Et vous savez quelle est la cause de cette pollution ?
Ce sont les raffineries illégales, les pneus qu'on incendie, les herbes, les branches qu'on brûle, tout ça. C'est pour ça. Autrefois, il y avait de l'air frais le soir et on pouvait sentir la nature. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres. Tous les jours, un nuage noir recouvre le ciel.
Les nombreuses industries implantées tout autour de la ville pétrolière de Port Harcourt contribuent aussi à la pollution de l'air. Mais pour les autorités, ce sont surtout les nombreuses raffineries illégales cachées dans les criques du delta du Niger qui sont responsables du phénomène de la suie noire. Alors, en début d'année, le gouverneur de l'état de Rivers a décrété un embargo sur ces activités et chargé les forces de sécurité de détruire toutes les raffineries artisanales de la région. Depuis, le ciel s'est éclairci, selon Bouma et Limas, 26 ans, mais les traits déjà tirés.
I think for me it's a bit better now.
Moi, j'ai le sentiment que la qualité de l'air s'est améliorée depuis 3 mois environ, parce que le gouvernement de l'état de Rivers est proactif et que les autorités essaient d'arrêter le raffinage illégal de pétrole. Le problème, c'est que quand les militaires interceptent ces gens sur la rivière, eh bien, ils mettent le feu à leur stock de carburant. Et ça aussi, ça pollue énormément.
Et si on regarde en arrière ces dernières années, vous avez l'impression que le problème s'aggrave ?
Oui, la situation empire à mesure que ce business devient de plus en plus lucratif et cela produit de plus en plus d'émissions de carbone. Et puis, il n'y a pas d'emploi, donc tous les mois, il y a des dizaines de nouvelles personnes qui se lancent dans ces activités clandestines. Même des gens qui viennent des États voisins, d'Abia ou d'Imo.
Donc pour vous, il y a plus de raffinage illégal qu'avant.
Oui, oui, c'est le cas. Tout ça se passe dans les mangroves, pas si loin de notre communauté, puisque nous vivons au bord de l'eau. Et je peux vous dire que tout ça est progressivement en train de remplacer nos modes de vie traditionnels. Il n'y a pas que l'air. Le pétrole a aussi tué la vie aquatique en contaminant la mer, et il est devenu difficile de faire une bonne pêche. Donc les gens se sont retrouvés coincés. Nous n'avons plus le choix. Au bout d'un moment, on finit par faire ce qu'on a toujours dénoncé, car nous aussi, nous devons survivre.
Dans le delta du Niger, les populations sont prises en tenaille entre misère et pollution, victimes d'une industrie extractive dont elles ne bénéficient nullement. Même l'accès à l'énergie est difficile, y compris en ville. Depuis que les forces de sécurité ont lancé leur opération contre les raffineries illégales, la qualité de l'air s'est améliorée. Mais il est devenu plus difficile encore de se fournir en carburant, selon Asif Yeka Thompson Dédé, un vieil homme qui reçoit dans son salon humide et sombre.
Certains sont contents qu'il y ait moins de pollution, mais d'autres non. Pourquoi ? Parce que le produit artisanal, c'est celui-là que nous achetons. Le kérosène, le diesel que nous utilisons vient de ces raffineries illégales. Moi, par exemple, je viens d'acheter cette bouteille de carburant qui m'a coûté 90 centimes d'euros à cause de cette opération militaire. Sinon, ça ne devrait pas coûter plus de 20-30 centimes maximum.
C'est du kérosène.
Oui, c'est ça.
Vous utilisez ça pour cuisiner ?
Oui, nous sommes pauvres. Moi, je n'ai pas les moyens de cuisiner au gaz. Ça coûte bien trop cher. Tout ce que nous voulons, c'est un produit disponible et bon marché. Si le gouvernement faisait son travail, nous n'aurions pas de pénurie. Il y a 4 raffineries dans le pays, mais aucune d'entre elles ne fonctionne. Nous avons du pétrole en abondance, mais nous le vendons à l'étranger et nous importons tout notre carburant. Quand tout cela est disponible en quantité dans notre pays. Quand j'étais jeune, ce n'était pas pareil. Les raffineries fonctionnaient, les gens pouvaient cultiver leurs terres et pêcher, la vie était facile. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tout détruit pour l'intérêt d'une poignée de dirigeants.
L'incapacité du marché officiel à satisfaire les besoins des plus pauvres a contribué à la ruée sur le carburant de contrebande qui s'est répandue partout dans le pays. Au mois de février-mars, le Nigeria a notamment fait face à une importante pénurie d'essence liée à l'importation de 100 millions de litres de produits frelatés. Dans la foulée, les consommateurs ont été confrontés à une très forte augmentation du prix du diesel liée à la guerre en Ukraine.
Ok, let me finish what I'm doing and because I need to go to the bank.
Il y a une très forte demande localement. Le diesel raffiné dans les criques coûte environ 60 ou 70% du prix du diesel importé. Vous savez, le gazole n'est pas subventionné au Nigeria, contrairement à l'essence. Donc le diesel, c'est vraiment le produit phare sur le marché parallèle. C'est là qu'il y a de l'argent à se faire, car c'est le gazole qui fait tourner l'économie, qui fait rouler les camions et qui alimente les gros générateurs. Et puis la perception selon laquelle ce ne sont que les habitants des communautés locales pauvres qui se lancent dans ce trafic est complètement fausse. Il y a des investisseurs. Ils n'ont besoin des travailleurs locaux que pour faire tourner les raffineries artisanales, mais les commanditaires sont des hommes d'affaires, des hommes politiques et puis des membres des forces de sécurité, surtout des hauts gradés.
Le professeur Ben Ahanen est spécialiste d'histoire économique et de développement à l'université de Port Harcourt. Comme les autres spécialistes de la question, il décrit un système très organisé qui implique de nombreux acteurs à travers tous les échelons de la société. Et si une partie du pétrole volé le long des pipelines est directement raffinée au Nigeria, une portion est également exportée à l'international.
Tout vient de la même source. Il y a des points de branchement le long des pipelines et les gens qui possèdent ces points de branchement vendent le pétrole brut à des barges qui alimentent ensuite de plus gros vaisseaux ou simplement des raffineries locales. Ce sont ces gens-là qui contrôlent vraiment le marché, ceux qui gèrent les branchements illégaux. Et c'est à ce moment-là que les forces de sécurité jouent un rôle. Et vu le calibre des personnes impliquées, c'est très difficile pour le gouvernement de s'attaquer à ce problème. Et puis ça rapporte énormément d'argent. Regardez, en ce moment, le prix du baril dépasse les $100. Imaginez l'argent qu'il y a à se faire. En attendant, l'État nigérian perd sur deux fronts, parce qu'il dépense énormément d'argent pour ses importations de carburant et que l'essence est en plus subventionnée. Et aussi parce qu'il perd du pétrole brut, qui est traité par les raffineries artisanales localement.
And if you see me, my God.
Selon l'ONG Stakeholder Democracy Network, entre 5 et 20% de la production pétrolière du Nigeria est siphonnée le long des pipelines. Celle-ci s'élève actuellement à 1 400 000 barils de brut par jour. Le pays n'arrive même pas à atteindre son quota journalier fixé à 1 750 000 barils par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Ça a commencé avec un sabotage local. Il y a des pipelines qui traversent notre communauté de Krika. Donc nous, on ouvrait ces tuyaux et on récoltait de la vraie essence, du carburant raffiné. C'est comme ça que nous avons commencé. Puis le gouvernement est devenu plus agressif dans sa lutte contre ces petits trafics. Donc nous avons décidé de partir dans les marécages.
Chagar est arrivé par bateau depuis la rivière. Ce quarantenaire sympathique possède 3 raffineries illégales cachées dans la vaste mangrove du delta du Niger. Dans les quartiers sud de Port Harcourt où il nous donne rendez-vous, le trafic de carburant se fait à ciel ouvert. Des dizaines de véhicules attendent leur chargement et les bidons passent sans problème les checkpoints de la police installés à proximité.
Tout ça est possible grâce aux militaires. Ce sont eux qui sont postés sur les checkpoints près des infrastructures pétrolières sur la rivière. Mais ils sont régulièrement relevés. Donc si tu n'as pas de bonnes relations avec eux, ils peuvent te causer des problèmes et t'interdire l'accès au branchement. Nous utilisons un tuyau et une pompe pour voler le pétrole. Ensuite, nous le mettons dans un bateau et on l'emmène jusqu'à nos cuves sur le site de notre raffinerie artisanale. On paie les militaires avant de récupérer le produit. Et il faut bien les payer à chaque fois. Si tu ne trouves pas un arrangement, ils vont te barrer la route. Mais ils ont besoin de cet argent. Parfois, ce sont même eux qui nous appellent pour nous dire « Alors, vous venez ou quoi ?»
Cependant, depuis quelques mois, les affaires sont devenues plus difficiles pour Chagar, et pas seulement à cause de l'embargo décrété par les autorités de l'État de Rivers. Face à l'ampleur des sabotages, plusieurs compagnies pétrolières ont aussi déclaré l'état de force majeure. Cette clause leur permet de suspendre leur livraison et d'interrompre l'approvisionnement des pipelines. Du coup, Chagar est forcé de se fournir ailleurs, auprès des militants ou des cultistes qui gèrent certains points de raccordement clandestins. Les premiers sont d'anciens membres des groupes armés qui s'en prenaient aux infrastructures pétrolières dans les années 2000 et qui ont depuis intégré un programme d'amnistie offert par le gouvernement. Les autres sont affiliés aux gangs criminels qui pullulent dans cette région.
Si tu n'es pas fort, tu ne t'aventures pas sur la rivière. Moi, je n'ai pas d'armes, mais ceux qui protègent la rivière en ont. Les militants sont toujours là. Certains d'entre eux utilisent des sous-traitants comme nous pour faire le sale boulot, car ils ont peur d'être interpellés par les forces de sécurité. Mais ce sont eux, les anciens agitateurs, les anciens membres des groupes armés, qui contrôlent la rivière. Et je vais vous dire, ces militants qui contrôlent les raffineries illégales, ils ont la protection du gouvernement. Notre gouverneur, s'il mettait réellement un terme à ses activités, il n'aurait plus jamais la paix. C'est une forme de compensation. Comme ça, il n'attaque pas la population. Vous voyez, il y a moins de kidnapping, il y a moins de guerre des gangs entre cultistes, et ça, parce qu'il existe une alternative. Il y a des gens impliqués depuis longtemps dans ce business qui soutiennent les élus en place. C'est très compliqué. Si les militaires viennent détruire certains sites, c'est juste pour prouver à leur hiérarchie qu'ils travaillent. Mais au bout d'un moment, ça se tasse.
Pour assurer une stabilité relative dans leur région, les autorités locales s'appuient en sous-main sur les anciens généraux du mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, le MEND. Bien que le gouvernement fédéral ait toujours nié avoir payé pour qu'ils déposent les armes, certains généraux du mouvement armé comme Tom Polo ou Ateke Tom ont obtenu de juteux contrats de surveillance à plusieurs millions de dollars après l'amnistie.
Mon nom est Chief Honorable Ambassador Simeon Bebenimbo. Je suis le conseiller spécial du gouverneur de l'État du Delta sur les questions de renseignement et de développement. Je suis aussi à la tête d'une organisation qui s'est battue pour l'émancipation du Delta du Niger et je possède une compagnie de surveillance des infrastructures pétrolières.
On rencontre Chief Honorable Simeon Bebenimbo dans sa résidence privée d'Okeren Koko, l'un des anciens bastions du MEND, à plus de 200 km de Port Harcourt. Le royaume traditionnel de Gbaramatou a été au cœur de la résistance du peuple Idjo contre les compagnies pétrolières et l'armée nigériane au début des années 2000.
Il y a bien sûr des défis sécuritaires dans notre royaume. Parfois, les pipelines sont vandalisés. Il y a énormément de fuites de pétrole qui se déversent dans la nature. Nous, nous essayons de nous assurer qu'il n'y ait pas d'attaque de pirates avec l'aide de notre chef. Parce que nous avons un chef. Nous tous qui travaillons dans la sécurité, nous sommes sous le patronage de High Chief Tompolo. Quand Goodluck Jonathan était président, le gouvernement fédéral a donné des contrats de surveillance à Tompolo. Et nous en avons tous bénéficié. Ça nous a apporté énormément d'emplois. Il n'y a que ça qui peut garantir la paix dans l'état du Delta, au Nigeria en général, et plus particulièrement dans notre royaume de Gbaramatou. L'armée est impliquée dans le vol de pétrole, la police et la défense civile aussi. Alors, la seule solution pour mettre un terme à ces activités illégales, c'est de donner du travail aux jeunes du Delta du Niger pour qu'ils puissent nourrir leur famille et qu'ils ne soient pas tentés par ces activités.
Le chômage endémique ronge les régions pétrolifères du Nigeria. Alors pour encourager le développement des communautés isolées, les autorités ont posé en 2012 la première pierre de l'Université maritime du Nigeria à Okerenkoko. Mais cela n'a pas changé grand-chose, selon Mosco, un jeune de 25 ans croisé sur les quais de cette bourgade endormie.
En ce qui concerne l'université maritime, oui, ça nous a rapprochés un peu de la civilisation. On a commencé à voir des gens qui viennent de l'extérieur, d'autres régions. Par contre, l'université n'est pas terminée. L'administration est toujours dans des locaux temporaires. Ici, il faut utiliser ses bras pour pouvoir travailler, que ce soit pour faire de la lessive, couper du bois ou des arbres, ou pêcher. Non, il n'y a pas de travail ici, pas d'emploi formel.
À 1h30 de bateau à moteur en amont de la rivière, sur les quais de la ville de Wari, Timmy, 28 ans, fait le même constat. Comme de nombreuses autres femmes, elle fait commerce de carburant artisanal.
I have customers.
J'ai mes clients, je les contacte et je leur dis que je vais recevoir une cargaison d'ici 3 jours, qu'on va se donner rendez-vous. Il y a même des gens du Nord qui viennent jusqu'ici, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Tous ces gros camions utilisent du diesel et même les barges. Une fois leur réservoir rempli, ils embarquent une cargaison supplémentaire de carburant artisanal. Il est de bonne qualité. C'est pour ça qu'on voit même des blancs qui viennent ici en acheter.
Début avril, la marine nigériane a lancé à son tour une vaste opération dans les criques du delta du Niger visant à arrêter les voleurs. Ce déploiement d'envergure a perturbé le marché local.
Pour faire court, beaucoup de gens ont mis leurs activités en pause suite aux attaques de l'armée qui détruit nos cargaisons. Dans ce business, soit tu gagnes, soit tu perds. Et tu ne peux pas gagner à tous les coups. Des fois même, tu perds tout, parce que c'est un commerce illégal. Mais pour moi, ça n'a rien d'illégal, oh. Parce qu'il n'y a pas de travail, rien du tout dans ce pays. Même quand je dis que je voulais aller à l'université, tout le monde a commencé à me décourager en me disant « Regarde ceux qui y sont allés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme travail ?» J'ai répondu « Si Dieu le veut, j'y arriverai. » Mais je vois bien que même les diplômés, même ceux qui ont des masters, qui ont servi leur pays et fait leur service civique, même eux, ils se retrouvent à conduire des triporteurs. Imagine.
Dans les criques du delta du Niger, beaucoup rêvent que les activités des raffineurs illégaux soient formalisées ou bien demandent que des raffineries modulaires pourvoyeuses d'emplois soient ouvertes dans leur région. Mais pour l'ONG Stakeholder Democracy Network, qui défend les intérêts des populations victimes de l'industrie extractive, pour conjurer la malédiction du pétrole, il faut faire évoluer les modes de vie et encourager une transition vers les énergies renouvelables.
Vol de pétrole dans le delta du Niger, un grand reportage de Lisa Fabian, réalisation Pauline Leduc.